la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 23e émission de Par le bout de la lorgnette, une émission aujourd'hui qui va être consacrée à la bande dessinée. Alors est-ce que j'ai allumé le bon micro, Valérie ?
Et bonjour !
Et bonjour Valérie, c'est le bon micro, c'est bien. Pauline est là également, salut !
Bonjour tout le monde !
Alors par contre, on n'a pas d'Héloïse qui est partie à un concert à Londres, aller voir le groupe Justice, Justice.
C'est un groupe de musique classique, c'est ça ?
Voilà, c'est un DJ français. Mais je crois que c'est deux DJ français même en même temps. Peut-être qu'on écouterait un morceau en pause musicale.
Bonne idée.
Ça pourrait être pas mal. Et Nico qui est absent pour des raisons professionnelles, qu'on salue.
Salut Nico.
Salut Nico.
Voilà, alors la bande dessinée, de toute façon, on peut rappeler qu'on sera sur le stand d'Emlire. Valérie, tu y seras avec Guillaume ce samedi pour une émission avec les organisateurs, les libraires, les illustrateurs, les associations présentes, un peu tout le monde.
Voilà, on fera une petite chronique en direct de 10h30 à 11h30 à peu près, où on essaiera d'inviter tous les participants et qui nous donnent un petit peu leur avis, leur motivation, pourquoi ils sont là et surtout qui nous parlent du thème de la nature dans la littérature.
Voilà, une émission qui sera rediffusée à 12h30, qui sera enregistrée et diffusée juste avec un petit décalage d'une heure. En attendant, c'est les bandes dessinées. Et on va commencer avec Pauline qui va nous parler des Voyeurs.
Les Voyeurs, ouais, chez Actes Sud dans la collection L'An 2. Et c'est de Gabrielle Bell. Gabrielle Bell, elle est née en Angleterre en 76, elle a une quarantaine de 40 ans, bientôt. Et elle a grandi dans une petite bourgade campagnarde de Californie. Et en 98, elle commence à réunir des tas de petites histoires dessinées et avec du texte, plus ou moins autobiographiques, qu'elle va appeler ses book-off, donc ses livres du sommeil, livres de l'insomnie, livres du noir. Et donc ça a donné, quelques années plus tard, en 2005, « Quand je serai vieille » aux éditions L'An 2, donc qui réunit un peu toutes ces petites histoires. Aujourd'hui, les éditions L'An 2, c'est devenu une collection chez Actes Sud.
D'accord.
En 2010, elle passe à un autre album donc, qui sera publié aussi en France, « Cécile et Jordan à New York ». Alors j'ai bien aimé ce petit épisode parce que Michel Gondry en a tiré un court-métrage Tokyo, qui est en fait un petit film avec trois courts-métrages de trois réalisateurs différents. Et donc la partie réalisée par Michel Gondry s'est tirée de Cécile et Jordan à New York. Elle était à l'époque en couple avec Michel Gondry. D'accord. Alors là, on nous montre de belles images où elle va justement se baigner à la campagne avec Michel Gondry.
Ah, mais c'est autobiographique en
ouais,
fait.
Ouais.
D'accord.
Donc voilà, donc cette année elle sort Les Voyeurs, encore une fois chez Actes Sud, et donc c'est des petites historiettes, c'est 6 cases par page, hein, c'est un petit format, et ça retrace des épisodes de la vie de Gabrielle Bell, donc c'est complètement autobiographique, entre 2007 et 2010. Alors les dessins, c'est plutôt simple, peut-être un peu grossier en couleur, c'est pas forcément, la démarche en elle-même est pas forcément très très originale de l'autobiographie. Mais c'est super sympa.
Et elle écrit en français ou
Ah non, elle écrit en anglais, c'est traduit, ouais.
D'accord.
Ouais,
et ouais. Ça sonne bien, enfin même
ouais,
traduit.
Je pense que c'est plutôt bien traduit. Après, bon, j'ai pas vu les planches en original, mais oui, ça rend très bien. La traduction est plutôt réussie. Du coup, on a voilà toutes les réactions un peu habituelles de beaucoup de femmes. Genre, elle se fait des petits films, elle croise un gars dans la rue et puis un beau mec, elle y repense après, elle se fait un petit film, ça aurait pu se passer comme ci, comme ça. Elle a de gros doutes existentiels, elle fait des tests un peu. Là, elle teste le yoga dans une pièce qu'elle s'est construite chez elle, où elle se fait transpirer. Enfin voilà, vraiment des trucs un peu de nana. Et aussi des vraies réactions qu'on imagine d'auteur. Elle a ses moments de dépression, elle essaye de s'isoler un peu de tout, des gros doutes sur la vie, la peur de la page blanche. et toute une partie de ses relations avec le cinéma indépendant, la BD indépendante. Donc c'est hyper varié, les thèmes, c'est vachement sympa. Et ça m'a beaucoup plu. Du coup, bon, pour l'histoire, mais aussi pour l'auteur, finalement, Gabrielle Bell, on a l'impression qu'elle a passé toute sa vie et qu'elle passera toute sa vie avec son petit carnet de croquis à la main, et du coup qu'elle voit un peu le monde avec des yeux différents. Elle est toujours à faire ses petits dessins, à regarder ce qui se passe. Et du coup, bon, c'est une auteure, elle est assez égocentrique, hein, là on le ressent, mais malgré tout, elle voit, voilà, elle s'intéresse aux autres, elle passe son temps à les dessiner, à penser à eux, à réfléchir, qu'est-ce qui les touche, et du coup, elle est vachement touchante. Donc les histoires, elles sont très souvent rigolotes, elles sont parfois émouvantes, et puis il y a tout un passage que j'ai bien aimé justement avec Michel Gondry, puisqu'ils sont dans la campagne à côté de Montpellier, donc nous, ça nous touche un petit peu particulièrement. Donc très sympa, vraiment à découvrir, moi ça m'a plu.
Elle a quel âge au moment de ces histoires à peu près?
Eh ben, du coup en 2007, elle a la trentaine, entre 30 et 35 ans.
Alors en tout cas, comme toujours chez Actes Sud, bon là c'est l'ombre 2 chez Actes Sud, c'est un très bel ouvrage, c'est un petit format. C'est du beau papier dessus, c'est très agréable au toucher. Il y a beaucoup de textes par contre.
Oui, il y a beaucoup de textes.
J'aime pas trop moi les BD avec beaucoup de textes.
Bah, elle se pose beaucoup de questions, hein. C'est vraiment, elle se parle beaucoup à elle-même, elle nous fait plein de remarques sur ce qui se passe dans sa propre vie, dans la vie autour d'elle. On sent vraiment l'auteur un peu cliché, quoi, je vais dire, mais c'est sympa.
Et justement, tu disais qu'elle était, c'était beaucoup les questions que les femmes se posent. Du coup, c'est plus une bande dessinée pour les filles ou?
Non, je pense que ça fera aussi rigoler. Non, ça fera rigoler les garçons parce que c'est pas que sur ça. On n'est pas comme genre Claire Bretéché où c'est peut-être plutôt filles. Là, il y a plein d'autres thèmes abordés et même les passages un peu où, elle se pose des questions sur son physique, tout ça. Voilà, le but, c'est de faire rire, c'est de l'humour, donc ça va toucher tout le monde.
C'est plus cliché que...
Ouais. D'accord. Donc, très sympa.
Ok, merci Pauline. Les Voyeurs, l'onde 2 chez Actes Sud, un très bel ouvrage.
Le rapport entre le titre et les différentes scènes, il y a...
Je me suis demandé si du coup, c'était pas pour nous, les lecteurs, tu vois, que nous, on était les voyeurs sur sa vie, je sais pas. Oui. Je me suis posé la question. J'imagine que ça doit être quelque chose comme ça.
C'est pas juste une histoire parmi tant d'autres, vraiment il y a une histoire de voyeur ou...
Non, pas forcément.
D'accord.
Non.
Ok.
Très bien, Valérie, la dame à la licorne.
Ah, les dames à la licorne, dirais-je. Alors moi, c'est
Non, c'est la dame à la licorne.
C'est le nom du titre. En fait, c'est très dans la mouvance actuelle. En fait, c'est un livre qui a été donc revisité par des étudiants donc de l'école Estienne qui ont repris donc la dame à la licorne. Tout d'abord, c'est une série de 6 tapisseries, donc tapisseries des années 1500, donc très anciennes. Qui ont la particularité d'être très bien faites, bien conservées, ça c'est une chose, mais qui à l'époque avait été fait avec un fond rouge, avec tout un tas de fleurs bleues et bourré d'animaux un peu fantastiques, médiévaux. Il y en a la licorne, il y en a le lion. Et c'est assez extraordinaire d'avoir...
Le lion existe, Valérie.
Oui,
c'est pas un animal fantastique.
Oui, mais alors le côté extraordinaire, c'était aussi pour le côté de la réalisation de la tapisserie. Elles sont exposées donc au musée du Moyen-Âge à Cluny. Et elles sont hyper grandes. Et c'est quand on est à 1500, donc il y a eu un travail de fou pour le faire. Et ces 6 tapisseries ont été analysées comme telles. Les 5 premières représentent les sens, donc l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe et, j'en oublie un, le goût, certainement. Et la 6e, c'est un grand mystère. Il y a eu tout un tas d'interprétations dessus. On retrouve les mêmes personnages qu'on a vus sur les 5 premières. Et il y a toujours une dame qui est un personnage principal avec un lion, un singe et des animaux. Et là, il y a marqué « À mon seul désir ». Donc, on n'est plus sur les 5 sens qu'on connaît. Et là, à partir de cette tapisserie, il y a eu tout un tas d'interprétations faites. Et c'est à partir de cette 6e tapisserie, donc, que ce livre, « La dame à la licorne », a été revisité. Et en fait, on a 16 auteurs, 16 étudiants en art plastique qui ont fait des petites BD avec comme sujet de fond cette 6e tapisserie, donc appelée la dame à la licorne, à mon seul désir. Et du coup, on a donc 16 histoires mais complètement différentes des unes des autres, avec des dessins complètement différents les uns des autres. Donc il y en a, j'allais dire, pour tous les goûts, tous les styles de BD. On a de la couleur, on a du blanc et noir, on a du dessin très, très détaillé, on a du dessin assez, assez gros, on a du dessin style aquarelle. Et puis il y a du sérieux, il y a du très drôle, il y a de l'humour noir, il y a un peu tous les styles du coup de BD, et c'est hilarant, et ça donne envie non seulement de découvrir plus de certains des dessinateurs, puisqu'il y a certains moi qui m'ont drôlement plu et j'ai envie de lire d'autres choses venant d'eux.
Ce sont encore des étudiants, hein,
ils
doivent être j'imagine à la fin de leur cursus.
Oui, je pense, la fin, vu le
niveau.
On sent qu'il y a il y a la touche, enfin je veux dire chaque dessinateur, enfin chaque auteur a vraiment sa touche personnelle. Et il y en a certains qui sont vraiment très très bons, et ça donne aussi envie d'en savoir plus sur l'œuvre historique. Il y a des tonnes de débats dessus, et c'est assez intéressant parce qu'il y a le nid international de la tapisserie à Aubusson dans la Creuse, où de là est partie certaines interprétations. Au musée à Cluny, ils ont d'autres interprétations, et c'est assez intéressant de se plonger là-dedans. Il y a 2 ans, on avait fait une émission spéciale Livre Jeunesse. On avait parlé des tableaux détournés. On avait présenté un livre pour enfants avec des tableaux détournés. Donc c'est un peu dans cette mouvance-là, mais là on va être pour adultes. Et je fais un petit lien avec une émission sur Arte qu'il y a pour l'instant, où en fait ils proposent aux internautes de prendre des œuvres qui existent déjà et de les détourner. Il y a à un moment des détournements de La Dame à la Licorne. Voilà, c'est assez marrant, mais ça. C'est une façon de s'instruire tout en rigolant, parce que on a une œuvre décalée, mais on apprend aussi sur l'œuvre originale.
Ce sont des dessinateurs scénaristes, ils ont fait les deux, ils ont dessiné, ils ont écrit aussi l'histoire.
Et certains ont coécrit. Alors je vais pas écrire les 16,
donc,
mais
par exemple une des histoires de cette dame à la licorne.
Laquelle, parce qu'il y en a vraiment trop. Alors moi, celle qui m'a fait beaucoup rire, c'est une personne qui anime un séminaire pour prouver que les licornes n'existent pas. Donc il prouve par A plus B en expliquant le pourquoi de la corne. Et en fait, on a l'impression qu'il y a un grand auditoire qui l'écoute pour prouver que donc les licornes n'existent pas. Et à la fin, en fait, la dame, la seule auditrice qu'il y a dans cette espèce d'amphithéâtre, sort. Et c'est la dame à la licorne, donc la dame qui représente la tapisserie, et elle part à dos de licorne.
Ah, c'est génial.
Mais c'est hyper bien fait. Il y a plein de petits détails. Enfin, il est vite lu. Enfin, si on s'arrête pas, on va le lire vite.
C'est un gros livre quand même.
C'est un gros livre, mais il y a quand même 16 histoires à l'intérieur. Mais il y a pas beaucoup de texte. Mais si on veut s'arrêter un peu sur tous les détails, c'est hilarant. Là, il y en a un autre, j'ouvre et je vois, et c'est fait un talk show un peu à l'américaine. C'est la licorne qui est en rage contre donc le lion et la dame à la licorne. Il est sur un plateau de télé, il vient se plaindre, et là, le présentateur dit « Mais oui, mais alors ce soir, on les accueille, voici la dame à la licorne et le lion. » Et donc, ça le met en rage. C'est des détournements donc de la tapisserie initiale, et en intégrant nos us et coutumes d'aujourd'hui. Il y a peu d'histoires qui se passent encore dans le Moyen-Âge. On va être plus dans soit des choses qui se passent maintenant ou dans les années 60, ou alors sur des choses complètement surréalistes. Et c'est superbe. Il y a tout style de dessin, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Tout le monde va trouver à l'intérieur, j'en suis convaincue, une histoire qui va l'accrocher. C'est vraiment super.
C'est
les éditions donc.
J'allais te demander.
Ouais, Futuropolis, mais je crois que tu as aussi un livre à présenter. Ah non, c'est moi qui vais présenter un autre de Futuropolis.
Non, moi j'ai un livre chez le Lézard, Lézard Noir.
Voilà.
Ok, La Dame à la Licorne.
Et c'est super.
Allez, c'est super.
Ouais.
N'hésitez pas pour ces fêtes de fin d'année, ça peut être intéressant à offrir en cadeau à tout âge.
Voilà.
Très bien.
Super.
C'est tout. Non, tu ne veux rien rajouter?
Si,
allez, vas-y, rajoute.
Je profite, comme on n'est que trois, de rajouter. À offrir avec le livre, peut-être une entrée pour aller voir le fameux musée de Cluny. C'est à côté des Jardins du Luxembourg. C'est pas très cher l'entrée. C'est un musée qui est bourré de, de choses sublimes comme beaucoup de musées. Et je crois qu'en ces périodes, il faut qu'on aille dans les musées. Il faut qu'on sorte et il faut en profiter. Voilà. Ça peut être une idée.
Tu offres l'entrée, mais il faut payer le voyage aussi.
Je vais maintenir à l'entrée.
Hein. Ouais, c'est déjà une super idée cadeau, le livre plus les entrées. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt sympa.
Bah, c'est vrai que nous, on est peut-être un peu loin de Paris, mais ça peut... Enfin, je pense que ça peut être une chose à faire pour une visite à Paris.
Ouais.
Voilà, c'est, donc c'est bon, j'ai terminé.
Ok, merci. Moi, on va aller du côté du Japon, tiens. Mm-hmm. Avec le livre Shisakobe de Minetaro Mochizuki. Mm-hmm. Donc, vous avez compris, c'est japonais, c'est un manga. Comme dirait Valérie en off, en début d'émission, c'est un livre qui se lit à l'envers. C'est ça. Mais figure-toi que j'ai mis 30 pages. Bon, je commence à l'envers, hein, mais j'ai mis 30 pages pour comprendre le sens des bulles. Parce que le sens des bulles se fait également à l'envers.
Ah, bah oui.
Oui, mais ça, on ne le sait pas quand on n'en a pas lu.
C'est le cerveau qui est trop organisé, trop droit.
On est occidentalisé.
C'est ça. Si tu veux.
C'est une adaptation en fait, d'un roman historique de Shugoro Yamamoto. Yamamoto, un romancier japonais 1903-1967, un célèbre romancier dont l'œuvre a été adaptée de nombreuses fois au cinéma. Écrit en 57, Shisakobe traite en fait des sentiments japonais. On connaît la délicatesse de ces sentiments, la douceur. On a plein d'auteurs japonais qui font référence à ça. C'est l'histoire de ce roman. Et ce manga est le premier volume de ce roman. L'auteur Minatoro Mochizuki a décidé de faire plusieurs livres sur ce roman. Donc je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y a quatre ou cinq livres successifs pour raconter l'histoire. Donc là c'est tout le début de l'histoire. L'intrigue de base du roman se passe dans une époque assez lointaine, celle-ci se situe de nos jours. Alors il est question dans ce livre d'un charpentier qui perd ses parents, qui perd son entreprise familiale, tout le monde brûle dans un incendie. Ça démarre de là. Et ce jeune charpentier décide de tout reconstruire tout en prenant sous son aile des orphelins, parce que l'orphelinat a également brûlé pendant l'incendie, en perdant jamais de vue les valeurs qu'essayait de lui transmettre son père, qui sont l'importance de l'humanité, de la volonté, de croire en l'avenir. Donc ce jeune charpentier répond au doux nom de Shigaji. Alors c'est quelqu'un qui est refermé, qui exprime très peu ses sentiments, mis à part à la colère qu'il a en lui suite au décès de ses parents, mais aussi donc la détermination de vouloir s'en sortir tel que son père lui a appris cette volonté de vouloir aller de l'avant. Donc c'est une traversée presque en solitaire, car il retrouve dès le début du livre une amie d'enfance, Ritsu, qui est orpheline elle aussi. Donc il embauche comme assistante chargée de gérer le bien-être des ouvriers de 5 enfants terribles, dont qu'elle prenait soin avant dans l'orphelinat avant que celui-ci brûle. Donc on suit ces deux personnages tout le long, les gens qui viennent le voir pour essayer de l'aider à reconstruire son entreprise lui refuse, il veut le faire de lui-même. Voilà, il dit c'est à moi de gérer ça, il veut pas garder les enfants, mais d'un côté il veut faire plaisir à Ritsu. Donc c'est un livre, c'est un manga, c'est lent, un style épuré. Donc cet auteur dans ses mangas précédents, c'était plutôt des traits un peu grossiers, exagérés, etc. Et donc là, il a lui-même expliqué qu'il voulait changer du tout au tout. Ce livre est un tournant pour ce dessinateur. Donc là, c'est un livre très épuré, minimaliste, très peu de paroles. On rajoute quelquefois des traits superflus, mais la plupart du temps, il y a un ou deux personnages. Donc c'est un rythme assez lent à l'image de ce qu'il veut expliquer, c'est-à-dire ses sentiments lancinants, ses beaux sentiments. On peut remarquer que donc le personnage principal a une longue barbe, on voit ses yeux qu'une fois dans le livre au tout début. Au final, c'est un personnage qui ressemble à Luke Wilson.
Mais oui, dans la famille Tannenbaum.
Dans la famille Tannenbaum, ouais. Exactement.
J'ai vu la couverture, je pensais à ça.
C'est ça. Et l'auteur s'en cache pas, il adore le cinéma de Wes Anderson. Ouais. Il a un peu essayé dans ce livre de faire des clins d'œil à Wes Anderson.
Ah bah c'est tout à fait réussi là pour le coup.
Voilà, c'est exactement ça. Le problème c'est que c'est le premier tome, donc j'ai pas lu les autres, donc j'ai un peu de difficulté à juger.
Oui.
Voilà. Après, c'est un beau livre, c'est doux, c'est agréable à lire. Voilà, ça va lentement. On est un peu énervé des fois parce que ce jeune charpentier a quand même une tête de cochon, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va accepter sa jeune amie. D'ailleurs, il embauche et ses orphelins, mais il met du temps. Non, je veux pas d'enfants chez moi. Ils ont qu'à aller à la DAS. Ils seront plus heureux comme ça. Non, je veux pas être aidé. Je veux reconstruire tout seul. Et il y arrive pas. Donc, on est un peu énervé, mais on sait qu'au final, il va y arriver. Le dessin, c'est aussi un esprit un peu pop. C'est un esprit pop sur les planches, mais avec une retenue et un équilibre donc qui est un peu inédit chez cet auteur. Pour finir, il y a quand même un peu d'humour, mais un humour qui parfois flirte avec le malaise. Voilà, il habille un jeune binoclard d'une dizaine d'années avec un t-shirt de Shining. Il y a une petite fille qui se promène avec un cahier recouvert de fleurs et de chatons dans lequel elle recense la liste de ses ennemis à qui elle mettra un jour sa main dans le cul pour arracher leur molaire. Voilà. Donc tout le long, il y a certains passages qui détonnent parce qu'on est dans un, voilà, on est vraiment dans l'exploration des sentiments et bim, tout d'un coup, il y a des traits d'humour qui restent un peu malsains de l'humour noir. Mais c'est, voilà, c'est très très bien travaillé. J'aimerais lire la suite. Je vais certainement d'ailleurs la lire pour avoir une idée globale. Après, voilà, c'est une histoire qui a été reprise au cinéma, qui a été reprise par des dessinateurs. Donc, j'imagine, si c'est pas un chef-d'œuvre, c'est au moins un best-seller de la littérature japonaise. Donc, ça doit être quelque chose d'extrêmement aimé et important et donc de qualité, j'imagine.
Les visages, ils font très, très occidentaux, je trouve. Autant les arrière-plans, les maisons, ça fait très, très japonais.
C'est les mangas. Les mangas, ouais. Toujours. Hein.
D'accord.
Oui, les yeux ronds, les yeux.
Je découvre les livres qui se lisent à l'envers, donc.
Oui, c'est ça. Mais je les ai découverts aussi.
Et lui, il est assez stoïque, en fait, dans son représentation, là, sur tout au long du livre. On a l'impression que son émotion, elle bouge pas.
Il laisse rien transparaître, mis à part de la colère parfois devant les événements. On comprend que c'est dû aux événements qui lui sont arrivés. Et de la volonté, il veut surtout pas être résigné par rapport à ce qui lui arrive. Pour l'instant, c'est ça. Mais j'imagine que voilà, ça doit être un roman qui évolue, où les personnages évoluent. Et là, dans cette première partie, voilà, c'est vraiment ce que l'auteur veut faire passer. Il y arrive remarquablement bien. Donc maintenant, à voir la suite. Donc le lézard, je t'ai dit quoi comme maison d'édition ?
Les éditions du lézard.
Le lézard noir.
Le lézard noir, voilà. Et donc c'est un auteur qui est extrêmement connu au Japon et pas en Europe, par contre, pas en France. En France, il n'arrive pas à percer, voilà. Ça
y est.
Ça marche pas, mais ça y est. Grâce à nous, grâce à Héloïse.
On le lance.
Merci Héloïse. Alors ensuite, on revient avec toi, Pauline, et après on fera une petite pause musicale. Okay. Pauline, la station.
Ouais, La Station de William N ou Aîné, je sais pas trop bien le prononcer, à la cinquième couche.
Fais attention parce qu'il y a des auditrices qui nous envoyaient des messages sur certaines émissions où on prononçait mal.
Avant que tu commences, je vais faire mon mea culpa. Donc sur l'émission, il y a d'un petit moment, on avait parlé des auteurs qui faisaient des biographies et à multiples répétitions. Donc j'ai mangé le nom de Delphine Duvigan.
Daphné Dumouriez.
Ah oui, pardon.
Allez, alors, tu l'as remangé une fois de plus.
C'est Daphné Dumouriez, je crois que c'est Delphine Duvigan. Daphné Dumouriez au lieu de Daphné Demouriez, que j'avais fait un mélange avec Delphine Duvigan. Non, je crois que tu m'avais dit Delphine Duvigan.
Non, c'était Daphné Dumouriez.
Daphné Dumouriez, alors voilà. Daphné, si tu nous écoutes, je suis vraiment désolée. Et donc, merci à cette auditrice d'avoir écouté l'émission et d'avoir relevé ça. Et j'en suis vraiment désolée.
Ça lui fera très plaisir, je pense.
Voilà.
Donc, tu nous disais l'auteur que tu ne sais pas.
William N ou Aîné, du coup, le trou. Alors, du coup, là, on est dans une gare. On a un voyageur qui achète de faux billets. D'autres sont assis autour d'une table et ils me partagent une rumeur. L'événement va avoir lieu, mais non, c'est faux. Oui, c'est vrai. Bref, une rumeur.
Quel événement.
Et oui, quel événement. Un marin se dirige vers la gare et il rencontre une jolie femme. Et il se met à la suivre, à la dragouiller un petit peu. Donc voilà, l'histoire elle se met doucement en place. Dans un contexte, au départ, c'est complètement réaliste. Hein. On a l'impression qu'on va voilà suivre plusieurs petites histoires. Mais vraiment petit à petit, on sent un décalage. Tout paraît bizarre. On sait plus bien où on est. Et on commence à comprendre que les personnages sont dans cette gare et ils attendent. Ils attendent tous un train qui n'arrive pas. Et certains sont là, même depuis des années, avec leur billet qui renouvelle tout le temps, puisqu'il est plus valable au bout d'un moment. D'autres sont seulement des nouveaux. Et alors, évidemment, les anciens se font une fête de voir arriver des nouveaux. Mmh. Et donc, tous ces gens, ils sont là, ils attendent et ils s'ennuient. Donc, les voyageurs vont tromper l'ennui en... Ils vont avoir des discussions philosophiques un peu sans fin et un peu sans queue ni tête aussi. Mmh. On a un groupe d'hommes qui jouent interminablement aux chaises musicales. Yann, le jeune marin dont je vous parlais tout à l'heure, et Mona, qui est la fille du chef contrôleur de la gare, ils rejouent leur rencontre chaque jour.
Ah, d'accord.
Et le père de personnel de la gare, lui, entretient tout ce petit monde dans cette attente, et qui est complètement absurde, mm-hmm. finalement. Et on a l'impression de tenter de montrer un peu qu'il sert à quelque chose. Donc, le chef contrôleur, là, le père de la petite Mona, alors lui, c'est un véritable tyran. Il pousse le règlement vraiment jusqu'à l'absurde. Il surcontrôle tous les passagers. Le bagagiste, lui, alors c'est le grand commère. Donc, toute cette gare, là, c'est finalement un système entier social, un système économique où chacun a son rôle. Mais finalement, ça repose sur rien, absolument rien. Et tous les personnages croient en dépendre. Et ils sont là, ils attendent et ils jouent leur rôle. Alors très franchement, au début, j'accrochais pas. J'arrivais pas vraiment à me plonger, à comprendre où ça allait. Je m'ennuyais un peu et puis j'attendais qu'il se passe quelque chose. Et finalement, j'ai compris que...
rien n'allait se passer.
Voilà, rien n'allait se passer. Mais comme tous les personnages du livre, ce que je ressentais, c'était de l'attente. Et je pense honnêtement que tout ça, c'était voulu. Par exemple, il y a des planches dans le bouquin, le règlement de la gare, ouais. qui est écrit en minuscule, mais vraiment en tout petit. Alors je me suis dit, je vais le lire parce que je vais bien y trouver une réponse. Donc ouais. on se lit ce pavé écrit en police 5. Eh ben, il y a aucune réponse là-dedans. Je balance un peu, mais
c'est un vrai règlement.
Voilà, c'est un règlement classique comme on pourrait trouver dans n'importe quelle gare. Il y a rien de particulier. Il y a aucune
caché,
réponse. Il y a pas d'humour caché. Non, c'est vraiment le règlement classique où on a, par exemple, à un moment, la première page de la Gazette de la gare qui paraît quotidiennement et qui finalement raconte vraiment des banalités. Le personnel de la gare a un nouvel uniforme. C'est merveilleux. Il est comme ci, comme ça. Bon, on apprend. Rien du tout. Et même les tons un peu c'est pas des couleurs puisqu'on est dans du gris et blanc.
C'est un peu oppressant comme dessin,
je trouve. Voilà, c'est oppressant, c'est terne, c'est finalement tout est un peu ennuyant. On est dans l'attente de tout. Et du coup, c'est assez dérangeant le sentiment quand on lit parce qu'on sait pas trop si on s'ennuie, si on attend juste avec les passagers. Donc voilà, moi je pense que la démarche de l'auteur, c'était un peu ça. Bon. Pour me conforter, j'ai quand même été faire des petites recherches sur et l'auteur et la maison d'éditeur pour voir un peu si ça me confortait là-dedans. Ouais. Parce que bon. Et du coup, donc la cinquième couche, c'est une maison d'édition belge indépendante qui se fait appeler aussi 5C. Et elle publie donc de la bande dessinée, des ouvrages de graphisme, de la poésie, et ça depuis les années 90. Et elle a joué notamment un rôle hyper important dans le développement de ce qu'on appelle la nouvelle bande dessinée au début des années 90, où on va passer un peu au-dessus des contraintes habituelles sur le format, sur les bulles, sur la pagination, la colorisation, et on va donner plus de place à l'œuvre elle-même, quoi. Et du coup, on a plein de nouveaux éditeurs qui émergent de ce mouvement. Donc le but, c'est de faire de la littérature ou des arts plastiques ou un peu de la BD underground, de faire une nouvelle BD, quoi.
Donc, ouais. Oui, mais une BD ennuyante.
Et les mots croisés qu'il y a à l'intérieur, tu les as faits ?
Non,
pas
je les ai
collé,
pas faits.
Secret, caché.
Peut-être que le message était là, mais du coup, après avoir lu ce fameux règlement, cette gazette, je me suis un peu découragée sur ces pages supplémentaires.
Aïe, peut-être que t'es passée à côté de quelque chose.
Peut-être
alors.
Que la réponse était dans les mots croisés. Si tu veux les faire,
non,
tu me diras s'il y a une réponse.
Je viens de voir les réponses, elles étaient en dessous.
Mais il me semble pas qu'il y ait... Non. Mais du coup, j'aimerais quand même vous lire un petit passage du texte de présentation du catalogue de la maison d'édition pour que vous voyez bien... Quelle est la démarche et pourquoi finalement je dis pas que je suis déçue par cette BD. Donc ils expliquent que tout ce qui frôle la bande dessinée intéresse la cinquième couche et tend à l'en éloigner. Son champ d'action est par définition poreux et illimité. Il ne serait pas étonnant de trouver parmi ces livres un précis d'urbanisme tatar ou de décaphonisme, je savais que j'allais buter, bantou, pourvu qu'il s'articule. Deux images, deux photos peuvent suffire à établir une articulation narrative. 5C montre, du jamais vu comme ça, s'il en est. Donc voilà, ce qu'il souhaite faire, je pense que c'est vraiment l'art contemporain, dépasser un peu les frontières de ce qu'on a considère comme de la BD, ouais, et de se centrer sur autre chose. Mmh. Et donc William N, qui est auteur de bande dessinée, aussi de films d'animation, qui est producteur et éditeur chez 5C, il est tout à fait là-dedans avec cette BD. Mmh. Donc je pense que ça plaira à des gens qui recherchent une prouesse dans la BD, ou un objectif qui n'est pas ni de raconter forcément une histoire, ou peut-être il y a peut-être aussi une petite critique de la société là-dedans, sur l'attente de quelque chose qui ne vient jamais. Mais voilà, il faut pas s'attendre à de la BD classique, et à mon avis c'est assez général chez 5C, hein. Je pense que c'est un peu le parti pris de la maison d'édition. J'ai lu des interviews, c'est assez radical comme édition, c'est vraiment hyper nouveau, hyper différent de ce qu'on connaît dans les éditions classiques, quoi.
Et là, William Aine, il est. Tu as vu un petit peu ce qu'il faisait ? Est-ce que c'est toujours dans le même style ?
Je pense que c'est un petit peu, tout dans le même style, parce qu'il, du coup, il est beaucoup édité à la cinquième couche. Mm-hmm. Il fait aussi pas mal de courts-métrages. Tout m'a l'air d'être dans ce style-là. Dans le caractère de la cinquième couche. Ouais. Dans un nouvel art qui transcende un peu ce qu'on voit habituellement.
Une nouvelle chose.
Oui, et après, cette idée de l'attente, de l'événement qui n'arrive jamais, c'est bien connu en littérature, sur plein de romans.
Oui, il y a d'auteurs. Plein de lecteurs qui ont fait le rapprochement avec Beckett, tout ça, c'est tout. Bien sûr. Voilà, je pense franchement que c'est ça l'idée.
Etc. Ok, merci Aline, une pause musicale. Donc Justice, c'était pour Valérie, hein. C'est le DJ que Louise est allée voir.
Ah, d'accord.
Le double DJ avec le morceau le plus connu, comme ça tu t'en rappelleras.
N'est-ce pas?
Tu vas remémorer, c'est Dances.
D'accord.
Just easy as ABC, that's how we make it right.
Et voilà, alors Valérie, tu connaissais ce morceau?
Absolument.
Et ce groupe?
Ah mais j'ignorais que c'était Justice, j'aime beaucoup. Héloïse, tu aurais pu nous inviter à venir avec toi.
Oui, mais non, c'est vrai. Elle n'a pas pensé à nous. On va lui demander dans 2 semaines.
On s'en rappellera.
Valérie, tu nous présentes un livre d'alcoolique?
Non, pas un livre d'alcoolique, bien que ça doit exister. C'est un livre dont le titre est alcoolique.
Ah, très bien.
Voilà. Un livre absolument superbe. Donc je dis un livre, je ne dis pas une bande dessinée. Alors il y a même un terme qui existe pour ce genre d'œuvre. C'est un roman graphique. Moi, je n'avais jamais entendu le terme, donc j'ai accepté quand j'ai lu roman graphique. J'ai dit c'est tout à fait ça, puisqu'on est vraiment sur un roman qui est dessiné. Et en fait, c'est un terme qui a été créé pour parler donc d'une bande dessinée qui est plus longue, qui a un contenu quand même sérieux et qui est pour adultes le plus souvent et qui a pour but de faire vraiment passer un message. C'est souvent des BD, enfin c'est tout le temps d'ailleurs, des BD qui sont en noir et blanc. On n'est pas sur des BD couleurs et c'est pas des BD qui vont avoir un genre bien particulier. On est sur du noir et blanc, sur quelque chose de sérieux pour adultes. Et là, on est exactement donc dans ce registre-là. Donc c'est un roman graphique donc qui a été fait par 2 personnes, donc un auteur qui s'appelle Jonathan Ames et donc un dessinateur qui s'appelle Dean Edmund Aspill. Ce sont des quinquas américains. Le livre, bon, il est pas, enfin, il vient pas d'être sorti puisqu'il a été écrit en 2008. Et c'est un roman graphique qui bouscule. Pas que j'ai des problèmes avec l'alcool, mais je me dis que ça peut être si vite arrivé. Puisque ça raconte l'histoire de Jonathan A. Donc on voit le clin d'œil avec son auteur qui s'appelle Jonathan Aim. Ah. Voilà. Je n'ai pas de problème avec l'alcool. C'est Ludo qui boit. Donc Jonathan est, donc il se réveille. La BD commence, il se retrouve donc à l'arrière d'une voiture avec une dame de très petite taille et très vieille qui en a après ses parties intimes. Et là, en fait, on voit à son faciès qu'il est complètement bourré. Et c'est à ce moment-là, à partir de ce passage-là, où il réalise qu'il a vraiment un gros souci avec l'alcool. Donc, à ce moment-là, il a quand même une quarantaine d'années, donc il a eu le temps d'expérimenter l'alcool dans tous les sens. Il fuit parce
que... Je croyais les femmes de petite taille.
Ça, non, justement, c'est qu'il a pas eu le temps d'expérimenter. Ouais. Et il fuit de suite, donc, cette maison, enfin, cette voiture avec cette dame qu'on suppose être une mamie de joie. Parce que la police arrive, il va se cacher sous un ponton, il se recouvre de sable, et là, en fait, c'est flashback, et on revient sur le début de sa vie où Jonathan était l'enfant parfait, le fils idéal, très 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 bon élève, le copain que tout le monde aime bien, enfin pas forcément le plus populaire, mais le mec sympa, mais assez réservé. Et en fait, avec son meilleur ami qui était aussi son voisin, il découvre à l'âge de 16 ans les joies, les effets que va procurer l'alcool. C'est-à-dire que la semaine, tous les deux, ils vont être des super élèves, donc les parents n'auront rien à dire. Et le week-end, ils vont être les pires buveurs d'alcool. C'est-à-dire qu'ils ont l'alcool très mauvais. Enfin, lui, surtout, Jonathan, il a l'alcool hyper mauvais. C'est-à-dire qu'il boit un peu, ça va lui procurer des super effets. Il va parler, il va se lâcher. Et par contre, de suite après, il va vomir. Il ne tient absolument pas l'alcool. Il a l'alcool mauvais. Mais il ne peut pas s'empêcher, dès le week-end d'après, après avoir fait une super semaine... scolaire, il va de nouveau plonger dans l'alcool. Il va réussir des super études, il va rencontrer une fille, mais il y aura toujours son problème d'alcool qui va être là, qui va tout le temps revenir, mais il s'arrêtera pas pour autant. Et pourtant, il se met dans des états, mais pas possible.
Ça t'a énervé, ce livre.
Ah ouais, parce que c'est en avenir, au bout d'un moment, mais mon gars, mais arrête. Parce qu'on sent qu'il est, qu'il est conscient de son problème. Mais qui n'arrive pas à se résoudre à franchir le cap. Et la couverture représente exactement tout l'esprit du livre, c'est-à-dire que sur la couverture, donc on a 2 couleurs. C'est une couverture d'un côté qui est en tissu, de l'autre côté qui est en carton. Sur la partie de droite, on voit Jonathan A. C'est marrant parce que c'est vraiment lui qui est dessiné et l'auteur. Et le personnage, enfin, c'est vraiment le même profil, un costard cravate, enfin un mec, j'allais dire lambda, qui va au boulot. Et on a son ombre qui est couchée dans le caniveau en jaune avec une bouteille à la bouche. Enfin, on voit vraiment la déchéance. Et c'est ça pendant tout le livre. Et donc, il rencontre une fille, la fille part, donc ça le rend encore plus malheureux. Il ressemble encore plus dans l'alcool. Il a que sa tante qui, enfin, qu'il a comme lien. Enfin, et tout le roman va comme ça. C'est, on a envie de l'aider, mais de notre côté, on a l'impression qu'il a pas envie de s'en sortir non plus. Et c'est assez bouleversant parce que
on racontera pas la fin, mais j'ai bien envie de savoir s'il s'en sort quand même. On le dira après l'émission entre nous.
Vous le lirez, je vous le dirai pas. Mais c'est poignant. Et puis c'est un peu le Dark Vador. On a l'impression qu'on peut franchir le côté obscur assez facilement. Parce que il arrive à conjuguer, enfin j'allais dire une vie lambda. Et ce côté de vie, parce qu'il a vraiment l'alcool, mais hyper mauvais. Enfin, il boit, il vomit, il se retrouve. Enfin, il a des expériences qu'il aurait peut-être pas eues s'il avait pas bu. Enfin, et c'est pas des choses positives. Enfin, autant il peut y avoir des gens qui boivent et qui disent oui, mais ça va me procurer telle chose. Enfin, qui vont se juste confondre dans leurs besoins et leur envie de boire et les effets que ça procure. Lui, on voit bien que c'est vraiment ponctuel. Enfin, c'est de courte durée en plus, son ivresse. Et c'est bien réussi. Il y a pas énormément de textes. Par contre, qu'est-ce que c'est poignant. Enfin, le peu de textes, le peu d'images qu'il y a. Quand on finit le livre, on a l'impression d'avoir lu un vrai roman avec 400 pages. Enfin, c'est prenant et c'est.
Tu es conquise.
Ah, mais complètement.
Ouais, on sent, hein,
complètement.
Ça t'a vachement touché,
ça m'a plu, ça m'a marqué. Et puis bon, à la base, je suis pas foncièrement une fan des BD. Enfin, la preuve, je découvrais ce que c'était un livre qu'on lisait à l'envers. Mais là, franchement, c'est un noir et blanc. Mais même si le sujet est grave, c'est pas quelque chose qui est triste. Enfin, c'est même au contraire. Enfin, c'est on a envie d'être optimiste. Et puis même lui, en fait, dans ses moments de sobriété, il est super optimiste. Enfin, c'est un gars qui a la patate malgré tout. Donc super. Enfin, un super livre. Bon, le livre en lui-même, en tant qu'objet, j'allais dire, il est déjà magnifique. Ouais, enfin, cette couverture là, moitié tissu, moitié papier, un peu cabossé, mais comme l'auteur et comme le personnage.
C'est pas autobiographique, c'est par contre.
Il se revendique un peu narcissique dans son écriture. Jonathan Hems, c'est un peu comme ton auteur, en fait,
oui,
qui parle un peu d'elle.
Belle.
C'est un peu sa vie. Après, j'ai essayé de chercher, voir si c'était vraiment lui qui a des soucis avec l'alcool, mais pas forcément. J'ai pas retrouvé ça. Après, plus des histoires de fac, de jeunesse, oui, mais pas ce problème, enfin, pas cette dépendance-là.
D'accord.
Voilà, mais super à lire. Enfin, vraiment, il n'y a pas besoin d'être confronté à l'alcoolisme pour avoir envie de le lire. Moi, ça m'a touchée et c'est vraiment un livre extraordinaire.
Plus pour les adultes alors.
Ah oui, complètement. Oui, pas du tout pour les enfants ou adolescents. Ouais. Non, non, vraiment pour adultes. Ça confirme ce que j'ai lu sur qu'est-ce qu'était un roman graphique. C'est roman. Ben, c'est
parce que
BD
quand
engagée.
On le regarde comme ça, c'est une BD quoi.
Ben, moi, quand j'avais vu la couverture, ça me faisait penser à de l'Apollinaire en fait. Je sais pas pourquoi.
Alcoolisme.
C'était tout ça qui m'y avait fait penser. Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger, voire un peu hilarant, ou même de l'humour noir. Ben là, c'est on rigole pas, mais on pleure pas, et je pense que ça fera partie des livres qui auront pris une petite place dans mon esprit et qui restera un long moment.
Pour la dernière émission de l'année, l'été prochain, tu pourras citer qu'on rappellera les livres qui nous ont plu.
Je pense qu'Alcoolique aura sa place. Ouais.
La maison d'édition, s'il te plaît.
La maison d'édition, donc c'est Monsieur Toussaint Louverture, c'est le nom de la maison d'édition, voilà.
D'accord, très bien.
Qui est super, une super maison d'édition aussi, qui a plein de petites perles.
D'accord. Bon, mais c'est bien parce qu'en fait, mon livre, c'est tout ce qu'a dit Valérie.
Ah. Donc, voilà. Tu as lu le même.
Je n'ai pas lu le même, mais c'est pareil. Mon livre que j'ai beaucoup aimé aussi, ça s'appelle Hans Falada, Vie et mort du buveur. C'est de Jacob Inrich. Donc, je vais vous poser deux petites questions pour commencer. Est-ce que vous connaissez Hans Falada, mademoiselle ?
Pas du tout.
Non.
Vous ne connaissez pas. Alors, est-ce que vous connaissez peut-être Rudolf Dietzen ?
Non plus.
Très bien. Alors, en fait, je vais vous expliquer. Hans Falada est le nom de plume de l'écrivain allemand Rudolf Dietzen, qui est né en 1893 à Greifswald, mort le 5 février 1947 à Berlin. Donc, c'est un grand écrivain allemand, un romancier qui s'est attelé à décrire la vie des petits gens et à dénoncer le nazisme par la suite. La bande dessinée donc, que je vous propose est un hommage à cet écrivain. Donc, il s'agit d'un livre de Jacob Inrich qui s'intitule « Vie et mort du buveur », qui est un hommage à cet écrivain. Alors, « Le buveur », il s'agit d'un livre de Hans Falada qui a été écrit secrètement en 1944, alors que Falada se trouvait en prison, présumé coupable d'avoir tiré sur sa femme. Et en fait, ce livre raconte les propres expériences de Hans Falada d'après des biographies. Le dessinateur s'est renseigné sur cet auteur, sur ses biographies, sur des correspondances qu'il a eues avec des gens près de Jérusalem pendant la guerre. Et il retrace aussi également plein de petits passages des livres de cet auteur, dont Le Buveur, dont il a écrit un conte qui s'appelle Le Blaireau, l'Insolent ou quelque chose comme ça. Donc voilà, tout ce livre, il y a 4 ou 5 petites histoires tirées des livres de cet auteur, et en gros c'est quand même la biographie, la vie de cet écrivain. Donc je vais quand même vous raconter un peu la vie de cet écrivain, parce qu'il s'agit de ça. Cet écrivain Rudolf Dietzen naît dans une famille aisée, son père est magistrat. Il souhaite bien sûr voir son fils embrasser une carrière de juriste, mais son fils ne veut pas, donc leurs relations sont très compliquées, très conflictuelles durant toute la jeunesse de l'écrivain. C'est un élève quand même qui est brillant au lycée. Sa vie est marquée cependant par un drame, une tentative de suicide. Alors précisément, c'est un pacte de suicide sous couvert d'un duel avec son meilleur ami. Voilà, ils voulaient se suicider, ils se sont dit bon, on va faire un duel à l'arme à feu, on se met dos à dos, on marche 5 pas, on se tire dessus. Son ami meurt, lui est gravement blessé mais meurt pas, donc du coup il va en prison à l'âge de 18 ans alors qu'il c'était un brillant élève. Il va en clinique psychiatrique, alors il y allait plusieurs fois en clinique psychiatrique parce qu'après il a été morphine. Il était accro à la morphine et à l'alcool. Donc, plusieurs reprises, il allait en prison parce qu'il faisait n'importe quoi à cause de ces addictions-là. Il allait plusieurs fois en hôpital psychiatrique à cause également de ces addictions-là. Et pendant ce temps, quand même, il a continué à écrire. C'était un écrivain vraiment prolifique qui a été connu notamment pour un livre. Alors, il faut que je retrouve dans mes fiches. Il était connu en 1931 avec Paysans, Gros Bonnet et Bombe, qui évoque les révoltes paysannes lors de la crise de 1928-1929 en Allemagne. Il écrit beaucoup de livres ensuite. En juillet 44, il essaye de tirer sur son ex-femme sous l'emprise de l'alcool. Donc, c'est là qu'il se fait incarcérer et qu'il écrit Le Buveur. En 1946, il écrit Seul dans Berlin, un roman qui est, selon Primo Levi, l'un des plus beaux livres sur la résistance allemande anti-nazie. Donc rien que ça. C'est un grand écrivain. Donc pendant la période du nazisme, il écrivait des histoires un peu plus pas du tout politiques, un peu gay. Donc les nazis ont dit ok, on te laisse tranquille, on te met au fin fond de la campagne, on te donne une machine à écrire, deux vaches, 3 poules, tu manges, tu écris, mais tu fais pas de vagues. Donc il a fait ça. Ça lui a permis d'être resté en marge de la guerre. Il a très mal vécu la Première Guerre mondiale. Je crois qu'il y a participé, mais il n'est pas resté très longtemps. Où il s'est blessé dessus. Donc il a pu échapper à ce côté-là, sauf que pendant ce temps il continue à boire, à faire n'importe quoi et à faire des allers-retours en prison. Il meurt ensuite en 47 d'un arrêt cardiaque. Donc Inrich, cet écrivain, ce dessinateur, c'est un dessinateur berlinois qui est extrêmement connu. C'est un peu des dessins comme des gravures, c'est violent, c'est noir. Après il y a des touches de couleurs un peu pures et crues, sans nuance. Ça nous rappelle un peu des publicités des années d'il y a très très longtemps.
De propagande.
Oui. De propagande, ouais. C'est un peu un livre choc, mais c'est un beau livre parce que ça raconte l'histoire. Et c'est comme toi, Valérie. On se dit, ben voilà, les effets que ça fournit. On dit, mais arrête de boire. Donc il boit du schnapps c'est la boisson autrichienne qui était aussi boisson allemande à l'époque. Il va jusqu'à retourner chez lui pour cambrioler sa femme, récupérer l'argent de tri pour s'acheter de l'alcool. Il vend sa bague en or pour 4 bouteilles de schnapps, son alliance, etc. Donc c'est pareil, c'est comme toi Valérie, on se dit mais vas-y, bouge-toi. Mais en fait, c'est la vraie vie de cet écrivain qui par ailleurs est un écrivain extrêmement connu en Allemagne que je ne connaissais pas non plus. Et je me suis rendu compte que pas grand monde connaît cet écrivain. Donc je vais essayer de me pencher un peu sur ses livres. Je vous invite aussi à vous pencher dessus. Donc Hans Falada, ça vient de deux histoires des frères Grimm. Falada, c'était un cheval dans un conte, mais c'est en allemand, bien sûr. Donc nous, on a d'autres traductions. Et Hans, c'est peut-être, je sais pas.
Hans, elle est Gretel.
C'est peut-être ça. Mais j'ai pensé comme toi.
Et c'est quoi tous ces animaux qu'on voit là? Il y a au milieu de la BD, il y a des, on dirait que les chapitres sont séparés par un petit document naturaliste où ils vont te parler du blaireau, du cheval.
Alors
du
le blaireau, ça vient de son histoire, de l'histoire du conte fantastique qu'il a écrit, l'insolent blaireau avec le prénom du blaireau dont j'ai oublié, que j'ai oublié. Ouais. Ça lui permet en fait de partir sur un nouveau roman que Hans Falada a écrit. J'imagine.
D'accord.
Voilà, et c'est en lien avec l'histoire qui arrive. Après, la trame est continue, c'est-à-dire que voilà, on va suivre Hans Falada, et tout d'un coup, on va partir sur un personnage qu'on ne connaît pas, qui finalement est le personnage du roman Le Buveur, donc qui est une personne qui a une entreprise qui est en train de couler. Donc lui part dans l'alcool, il se rend compte que qu'il peut plus rien faire de sa vie, qu'il n'y a que sa femme en fait qui maintenait l'entreprise à flot, que lui n'est rien. Et tout le monde lui dit, mais lui parle de sa femme, et donc il apprend pour la cause de tous ses malheurs, et il essaie de lui tirer dessus, et là on se rend compte que c'est donc l'histoire du buveur que Hans Falada a écrit en prison, et c'est sa vraie vie. Okay. Il est en prison à cause de ça. Donc il y a ces deux histoires, et après on revient et on se rend compte au milieu du roman que c'est bien sûr le même personnage, et donc on suit l'histoire de ce personnage à travers l'alcool. Et dedans, dans ses delirium tremens, dans ses hallucinations, il voit le blaireau. Et en fait, là, c'est un vrai conte que Falada a écrit. Okay. On voit, il y a d'autres passages. Il y a le passage du duel. Il y a d'autres passages. Il se remémore des événements. Donc, la trame est bien faite quand même. C'est bien écrit tout le long. J'avais un peu peur de ses dessins. Et en fait, j'ai adoré. Ouais. Vraiment, je le conseille aussi. Donc, c'est pour les adultes, bien évidemment. Ça donne envie de connaître cet écrivain. Et donc, pour les personnes qui le connaissent déjà, mais d'autant plus de récupérer ce livre. Le dessinateur, c'est un dessinateur notamment du New York Times. Il a écrit pour plein de journaux. C'est un dessinateur extrêmement connu qui vit maintenant à Berlin. Et donc, c'est son éditeur, la maison d'édition.
De Noël,
qui lui a demandé si ça lui plairait d'écrire sur la vie. Et donc, justement, il s'est penché sur sa vie et il a sorti ce livre. Il a mis plus d'un an, je crois, à dessiner ce livre. Ça lui a pris du temps, mais
il est long aussi.
Il est long.
C'est sacré.
Ouais. Ça doit bien se.
Mais ça se lit vite. Hein. Moi, je l'ai lu en un soir, hier soir. et ça se lit très bien. Et du coup, voilà, que ça soit un personnage réel, en plus un écrivain, nous qui aimons la littérature, ça donne envie d'aller plus loin.
Je croyais que tu allais dire ça donne envie de boire.
Mais... Non, pas du tout. D'ailleurs, regarde, aujourd'hui, on boit de l'eau,
n'est-ce pas,
dans cette émission. Voilà, quelle heure? Il est 1h23. On fait un petit point.
On peut faire un petit point. Moi, j'avais une question à vous poser parce qu'on parle de BD, on a parlé des BD qu'on a lues, mais spontanément, comme ça, si je vous demandais à tous les deux, quelle était la BD que vous emporteriez au milieu de la forêt, puisque le thème de Aime lire demain, c'est la nature. Donc je ne dis pas l'île déserte, mais dans la forêt, voilà, une BD.
Alors une BD, je dirais Axolot, qui est une BD super sympa. Axolot, à la base, c'est un blog. Mm-hmm. C'est un gars d'une 35-40 ans, en fait, qui raconte plein de petits faits, soit historiques, soit scientifiques, un peu étonnants, toujours hyper documentés, hein, c'est toujours vrai, on n'y croit pas du tout, on se dit c'est pas possible, mais si, c'est vrai. D'accord. Et donc, il anime un blog où il fait des petites émissions de 6-7 minutes où il parle de ces choses-là, et en fait, ces petites histoires ont été reprises par plein d'auteurs différents et illustrés dans une BD, donc un peu le même principe que Ta Dame à la Licorne. Ouais. Là, on a des BD par des dessinateurs et scénaristes différents, plusieurs petites histoires, donc toujours très étonnantes, réunies dans une BD. Et d'accord. En plus, le tome 2 sort, soit est sorti récemment, soit va sortir bientôt. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que je conseille parce que les histoires sont vraiment étonnantes. Et du coup, le dessin est varié, est sympa. C'est pas mal.
C'est des histoires qui ont été écrites, enfin, qu'il a écrit, c'est récent, du coup, comme.
Remonter à très loin, je pense. D'accord. Que celle qui me vient, une histoire assez terrible. C'est en fait un palais en Chine où il y avait des traces de pieds ensanglantés au plafond. Donc un grand mystère.
Ouais.
Et donc voilà, il raconte comment c'est arrivé, comment on se retrouve avec ces traces de pieds ensanglantés au plafond ou de mains.
Ouais.
Voilà, donc c'est ce genre de petite histoire, donc pas toujours aussi morbide. Hein. Mm-hmm. Il y a des histoires aussi rigolotes, des créatures très particulières. Ouais. Enfin, c'est très sympa.
Et ça, donc, après, repris par des dessinateurs et des scénaristes.
Ouais, qui nous racontent ces petites histoires. Très sympa.
Ça a l'air chouette.
Oui, à découvrir, ouais. Allez-y. Ouais.
Et toi, Ludo ?
Ah ben, sans hésitation, mis à part Gardien de ma vie de Joël Bat.
C'est ce que je voulais dire.
qui n'est pas vraiment une bande dessinée.
Oui, mais il y a des dessins au milieu.
Mais il y a quand même des dessins dessus. Ouais. Vu que je me suis arrêté de lire des BD à peu près 8 ans, sans hésitation, les Schtroumpfs et le Krakou casse. J'adorais cette BD petit. Ah ouais,
c'était
vraiment.
L'œuf d'or, tu vois.
Toi, c'était l'œuf d'or.
Avec l'œuf, c'est l'œuf doré.
Voilà, et depuis, la dernière BD que j'ai lue, c'était Vie et mort du buveur. Donc, te dire partir avec ce livre sur une île déserte, peut-être pas.
Ouais.
Sans alcool, c'est compliqué.
D'accord, les Schtroumpfs, tu prendrais les Schtroumpfs.
Je me suis arrêté là. Je sais pas. Ouais. Et toi, Valérie ?
Moi, c'est pareil, c'est sans hésiter, c'est Mafalda. Mais je suis une inconditionnelle de Mafalda et j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. J'aime le message qu'elle fait passer. J'aime ça. J'aime ça. Sa verve. Je trouve ça super. Sa petite vie. Ça...
Les amateurs de BD doivent halluciner.
C'est clair, c'est Mafalda.
Les nazes, quoi. C'est espagnol, Mafalda.
Argentin.
C'est argentin.
Je pense que ça vient aussi que c'est une des premières que j'ai trouvées dans ma maison quand j'étais petite. Il n'y avait pas Tintin, il n'y avait pas les Schtroumpfs. Mais mon père avait une petite BD de Mafalda. Et je crois qu'avec un de mes premiers salaires, je me suis offert le tome intégral de Mafalda.
J'aime
vraiment beaucoup. Je m'identifiais un peu à elle alors que sa vie, sa famille n'avait absolument rien à voir avec la mienne. Mais j'aimais vraiment beaucoup. Voilà,
je vois le personnage, mais je crois que je n'ai jamais lu de bande dessinée.
Ouais,
je veux bien.
Les grignonnettes, elle est rigolote.
C'est
elle a du
bagou. Il y a tous les clichés sur la maman. C'est une maman au foyer, un peu névrosée. Le papa,
pourquoi un cliché ? Pourquoi un cliché ?
Non, parce
que
t'étais au pas avec contre les violences faites aux familles.
C'est pas une violence là.
Enfin, l'éradication.
Je blague.
L'éradication des
féministes, tu le sais.
Je sais bien. D'ailleurs, tu portes très bien les bas et le porte-jarretel.
Voilà. Et d'ailleurs, t'as vu, c'est moi qui te sers de l'eau.
N'est-ce pas ? Et donc, Mafalda, son père, il travaillait en usine. Ils sont très touchés par la politique. Elle a un copain qui est le fils d'un commerçant, mais pareil, très cliché, donc il est très attaché à ses sous. Enfin, et tout ce petit monde, en fait, va suivre. La vie en Argentine par rapport à la politique, par rapport aux usines, par rapport à plein de choses. Et c'est, il y a des tonnes de planches qui ont été écrites et ça permet de découvrir la politique, de découvrir un peu les relations entre enfants, entre adultes. Enfin, c'est super.
C'est une vieille BD, le dessinateur existe toujours, non ?
J'imagine. Il est au moins à maison de retraite s'il n'est pas parti.
Ouais. Ouais.
Et ça touche les petits.
Petite, j'aimais beaucoup. Après, je captais pas
les petits.
À pleurer après les élections, je captais pas tout ça, mais après la forme de l'histoire, moi petite, c'était sur les débuts de l'apprentissage de la lecture, je trouvais ça sympa. Alors, puis c'est pareil, elle vivait, même si c'est traduit en français, elle vivait en Argentine, donc dans une ville. Donc elle regardait par sa fenêtre, elle voyait des immeubles, je voyais des brebis, donc rien que ça, déjà, c'était pour moi, c'était des paysans, donc c'était rigolo.
En fait, il n'y a que toi qui poursuis avec la bande dessinée, Pauline. Toi, tu aimes bien ?
De temps en temps, j'en lis pas beaucoup, mais j'en lis de temps en temps. J'emprunte à la bibliothèque, ça m'arrive d'en acheter. Je trouve que c'est assez sympa.
Alors, Mafalda, ça a été publié de 64 à 73 seulement.
Ouais, tu vois, c'est pas...
Donc, le tome que tu as acheté, ça datait d'il y a...
Oui, mais je te dis, si je l'ai payé ma première paye, c'était donc il y a 2 ans. c'est ancien. Enfin, moi, je lisais ça...
Alors, une bande dessinée à caractère plutôt politique.
Oui, peut-être.
Alors, d'ailleurs, son éditeur est mort sous la torture.
C'est vrai.
Oui, ça devait être pendant la période noire de l'Argentine.
Ouais.
Et je crois que ça, c'est son éditeur. Il me semble que c'est une dessinatrice.
Mm-hmm.
J'arrive pas à le trouver, mais personnage principal argentin de Kino, d'un c'est comic Kino, strip, ouais. C'est Kino. Ouais. Comme son auteur, Mafalda est argentine. Ah non, ouais. C'est peut-être un homme.
Là, peut-être que sur la prochaine émission, Nico nous parlera un peu d'Argentine avec la BD qu'il devait nous présenter aujourd'hui.
Voilà.
Voilà.
D'Aliende.
D'Aliende.
Oui, oui, on pourra faire un retour dessus. On a le thème dans deux semaines.
Oui, dans deux semaines, en fait, comme Héloïse n'est pas là, on va s'auto-proclamer avec le thème de nos livres préférés.
Ah,
voilà.
Et la fois d'après, on parlera des livres que vous devriez offrir à Noël aux gens que vous aimez.
Et oui, parce que ça sera bientôt Noël après. Voilà. Ouais, on arrive en décembre. Ouais.
Comme on a beaucoup de livres préférés, à chaque émission, on vous en parle que d'un ou deux. Et voilà, on va profiter de cette émission pour vous raconter nos livres préférés.
Allez, super. Merci les filles.
Merci Ludo.
Bye, merci.
À dans deux semaines. Ciao.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Quarante-huit FM.